Que le Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Voilà, on va passer maintenant au partage de la parole de Dieu. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Vous êtes au courant? Voilà, je me suis dit, peut-être que quelqu'un va le signaler. Pas encore. Alors, c'est la fête des mères. Vous êtes au courant. Alors, évidemment que les mamans disent oui, elles sont au courant. Tout à fait. Mais on sait qu'on ne fête pas, nous, la fête des mères, parce que l'origine, c'est une origine païenne. Mais il y a quand même une mise à l'honneur pour un jour comme celui-là de certaines femmes dans la Bible qui sont inspirantes. Et on doit jeter nos regards ce matin au travers de la vie de ces femmes, des décisions qu'elles ont pu prendre pour nous encourager, chacun et chacune d'entre nous. J'ai bien dit chacun et chacune d'entre nous, parce que peut-être que pour les frères, pour les hommes qui sont là ce matin, on peut dire « Enfin, ce matin, une prédication, je vais être tranquille. On va parler de femmes. » Alors, pas du tout. Vous allez voir que ça va nous concerner, nous aussi, évidemment. Juste avant que j'oublie, j'aimerais remercier également publiquement donc famille Lacaze pour avoir eu la patience d'avoir supporté les filles. Alors, juste aussi la petite parenthèse, ce ne sont pas nos enfants, ce sont des jeunes de Carpentras qui ont voulu absolument venir avec nous. Alors merci de les avoir hébergés parce que nous sommes arrivés hier. Il y avait une rencontre régionale de jeunes à Toulouse-Minimes. Et donc nous, ça me donne l'occasion également de remercier Sophie et Jean-Son pour nous avoir accueillis. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc on va voir ensemble ces femmes et au travers de quelques exemples. Et évidemment, quand on pense à un passage particulier, quand on parle de la femme, évidemment qu'on pense à Proverbe 31. Alors on va lire quelques pages, quelques lignes, quelques versets du Proverbe 31, verset 10. 31, verset 10. Alors ce verset en introduction, il commence par une question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine, du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures et des vêtements de lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, elle les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Voilà, le passage était un peu long, mais c'était nécessaire de pouvoir donc situer cette femme vertueuse. Et je crois que toutes celles qui ont donné leur vie au Seigneur aspirent à ces vertus qu'on a retrouvées dans ce passage. Et comme je vous disais en introduction, ce passage commence au verset 10 par une question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Gros point d'interrogation. Parce que c'est les vertus qu'elle porte en elle, ces vertus que nous avons héritées de la part de notre Seigneur, parce que le Seigneur nous a révélé à un moment donné sa gloire, il nous a fait voir que nous étions pécheurs et que nous avions besoin de sa grâce, de demander pardon et de finalement vivre cette grâce avec le Seigneur. Donc la question, elle commence, voilà, une femme vertueuse, qui peut la trouver? Et ensuite, ça nous parle de valeur. Elle a bien plus de valeur que les perles. Donc, cette femme vertueuse, elle est une attitude à faire le bien. Elle est courageuse, elle est compétente. Et quand on voit tout le descriptif qui est fait au travers de ce passage-là, on se dit, la barre est haute. La barre est haute, mais la Bible nous montre qu'on ne doit pas s'arrêter à ce qui pourrait peut-être effrayer, faire peur, ou se dire, j'y arriverai jamais, mais au contraire, de se dire, je veux tendre vers ces choses-là, et puis le Seigneur, dans toute sa grâce, va aider chacun et chacune d'entre nous. Donc, le courage, il y en a besoin, hein, n'est-ce pas, mes sœurs ? Évidemment, les frères aussi, on a besoin de courage aujourd'hui plus que jamais, alors que nous vivons dans un pays où on a encore la liberté, je dis bien encore la liberté de pouvoir témoigner, partager notre foi, mais jusqu'à quand? Donc, il nous faut du courage pour pouvoir parler à un ami, parler à un membre de notre famille qui ne connaît pas encore le Seigneur. Et de ce courage également, et de la compétence, mais pas de la compétence essentiellement qu'humaine, mais une compétence spirituelle. Nous voulons être des hommes, des femmes, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui, comme au début de la naissance de l'Église, avaient envahi Jérusalem de leur témoignage. Et je crois encore dans cette dernière recommandation que le Seigneur a laissée d'aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle, et c'est ce à quoi nous sommes appelés chacun d'entre nous. Ça ne veut pas dire que annoncer la bonne nouvelle, c'est de se tenir derrière un pupitre et de pouvoir que prêcher, mais c'est également communiquer aux personnes que nous côtoyons, avec qui nous avons des connexions, de pouvoir dire que Dieu les aime et que le Dieu peut-être qu'on leur a présenté n'est pas le Dieu que nous connaissons. Dieu est amour, ça on ne doit jamais l'oublier. Il nous aime, il a un plan pour nous, il veut nous sauver et il veut que nous passions l'éternité avec lui. Mais pour ça, évidemment, il y a tout un processus, tout d'abord de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'être pardonnés par lui. Le pardon a déjà été accordé à la croix du calvaire et c'est simplement à nous de pouvoir nous emparer de tout ce que le Seigneur nous donne. Cette femme, elle est comparée à un bijou. Elle a plus de valeur que les perles. Et toute sa vie, elle est centrée sur la crainte respectueuse de Dieu. Et je crois que c'est une vertu que chacun et chacune d'entre nous, nous devons avoir au plus profond de notre cœur, d'avoir cette crainte respectueuse de ce grand Dieu de l'univers qui s'est révélé à chacun d'entre nous. Quand je lis dans la parole de Dieu la puissance de Dieu pour déjà créer les cieux et la terre, ce Dieu qui tient le monde entier dans sa main, ce Dieu-là se manifeste dans nos vies, il vit donc dans nos cœurs et il se révèle à chacun et chacune d'entre nous. Alors, on ne s'approche pas de Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, Dieu, c'est mon pote. Alors, il a fallu que je rectifie rapidement, le propos. Dieu, ce n'est pas notre pote. Dieu est Dieu. Dieu est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alors, quand on le réalise, il y a instinctivement, automatiquement, une crainte respectueuse. Ce n'est pas simplement la peur de ce qui peut m'arriver, parce qu'on nous a présenté un Dieu qui est distant, qui est loin, qui est assis sur un trône avec une grande barbe blanche et qui attend que nous fassions un écart pour nous tomber dessus. En tout cas, ce n'est pas le Dieu que je connais. Le Dieu que j'ai pu découvrir, c'est un Dieu rempli d'amour, qui m'aime, qui a de la compassion pour moi et que j'ai de la valeur à ses yeux. Amen. Ça, c'est le Dieu. Alors, c'est pour ça que cette crainte, elle est respectueuse de la part de mon Seigneur. Quand je m'approche de lui, je m'approche d'un Dieu et je suis pleinement conscient de sa puissance et de toute sa grâce. Alléluia. La compassion, donc, le Seigneur nous la donne, veut nous la faire partager pour tous ceux qui sont dans le besoin. C'est pour ça que j'étais sur ma chaise et je disais, mais merci Seigneur, parce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui se lèvent pour aller apporter la bonne nouvelle aux extrémités de la terre pour accomplir l'ordre et la prophétie que le Seigneur a laissée. Et c'est vraiment important de pouvoir le faire. Et dans la sphère qui est la nôtre, je le disais en introduction, on doit également ne jamais oublier que c'est notre mandat, c'est le mandat de l'Église. Merci Seigneur parce qu'on se réunit ensemble, on a cette opportunité ce matin d'être réunis ensemble pour louer le Seigneur. Ça, c'est une des facettes de l'Église, mais la principale, c'est de rayonner de la grâce de notre Seigneur et de cette lumière qu'il a déposée dans notre cœur. Oui, Dieu est fidèle en amour avec toute sa famille, on le voit, on l'a vu par rapport à cette femme de Proverbe 31. Dieu a été fidèle. Comme elle s'est consacrée, il y a eu cette crainte respectueuse. Donc, elle s'est consacrée au Seigneur, à sa famille. Elle a des vertus qui sont importantes dans sa vie. Il y a donc des conséquences à ses choix, aux choix qu'elle a pu faire à un moment donné. N'oublions jamais que dans toutes nos décisions, il y aura toujours des conséquences. Alors quand on prend les bonnes décisions pour le Seigneur, évidemment les conséquences seront là, de bénédiction, le Seigneur sera près de nous, d'encouragement. Mais si on prend les mauvaises décisions, il y aura également des conséquences. Et ça, la Bible nous le dit. Alors ça, c'était un peu en introduction. Et là, on va voir un peu plus en détail quelques caractéristiques de femmes qui révèlent une vertu du cœur de Dieu. Il faut savoir que notre relation avec le Seigneur, c'est une histoire d'amour qui commence à la croix pour nous, parce qu'on a cette révélation de Christ, et qui se poursuit au fur et à mesure de notre marche. Il y a l'exemple d'une femme qui a choisi la bonne part. Pour les lecteurs assidus de la Bible que vous êtes, vous voyez de qui je veux parler. Et voilà Marie, on va lire un peu son histoire dans Luc chapitre 10, verset 38. Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» verset 40, voilà. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alléluia. Alors ici, on voit d'abord cette Marie qui a un cœur de consécration. Et je crois que nous ne pouvons pas nous offrir le luxe, une fois qu'on a rencontré le Seigneur, de ne pas être quelqu'un de consacré. Et nous voulons nous consacrer à notre Seigneur. Et ce passage se termine au verset 42 en disant « Une seule chose est nécessaire ». Et je crois que si dans la parole, il y a ce petit détail, qui finalement n'en est pas un, c'est quelque chose d'important, une chose est nécessaire. Alors on doit plonger nos regards. C'est quoi la chose qui est nécessaire? C'est de se consacrer au Seigneur et de se tenir dans une position qui était celle de Marie, au pied du Seigneur Jésus. Et je crois que tant que nous resterons au pied du Seigneur Jésus-Christ, alors là, on va être en sécurité, le Seigneur va pouvoir finalement nous parler, nous serons sensibles à tout ce qu'il veut nous dire. Mais pour cela, je crois qu'il y a d'abord eu, la Bible ne le dit pas donc spécifiquement, mais dans le cœur de Marie, un changement de cœur. C'est qu'à un moment donné, il a dû se passer quelque chose d'extraordinaire en reconnaissant Jésus comme son sauveur. Et peut-être que pour la plupart d'entre nous, nous sommes là ce matin, et un jour, le Seigneur est venu éclairer nos vies. D'ailleurs, dans les louanges, c'est ce qui est ressorti. Hein. Seigneur, j'étais perdu, j'étais loin de toi, et toi, tu es venu te révéler à moi de façon particulière. Et je suis toujours émerveillé. Quand on fait connaissance avec des frères et des sœurs, et quand je leur pose la question, mais comment vous êtes venu au Seigneur? Et toutes les histoires, elles sont extraordinaires. Et je réalise les moyens que Dieu emploie pour sauver une âme. Elles sont particulières, elles sont même des fois étonnantes. Mais en tout cas, ce que Dieu veut déjà pour chacun d'entre nous, nous tous qui sommes ici ce matin, c'est que le cœur soit changé, qu'il soit bouleversé par la grâce du Seigneur. Et pour cela, il y a un besoin vital d'un changement de cœur. Et c'est ce que nous dit la parole. Le Seigneur nous dit qu'il allait changer notre cœur. Le cœur qui est dur comme de la pierre. On en discutait hier, hein, de savoir que l'homme est ingénieux au mal, le cœur dur, le cœur méchant, et puis le Seigneur vient, et par sa grâce, ce qu'il fait, c'est qu'il change nos cœurs. Des fois, on aurait une tendance de croire que, par exemple, les pasteurs, ceux qui prêchent la parole de Dieu, sont nés avec une chemise, un costume et une cravate. Parce qu'on voit le produit, je me permets de le dire comme ça, le produit presque fini, hein, pas fini, mais presque fini. En fait, il y a toute une histoire derrière, de révélation de qui est Jésus-Christ. Je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents m'ont inculqué des valeurs, des bonnes valeurs. Et du coup, j'ai toujours su, depuis mon plus jeune âge, que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il avait donné sa vie à la croix du calvaire. Et j'en étais pleinement convaincu. J'étais même capable de dire à quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, « Mais Jésus, c'est le sauveur du monde. » Alors, il y avait une conviction dans mon cœur, mais je ne le connaissais pas. Il ne s'était pas révélé à moi de façon concrète. Et puis un jour, c'était à l'âge de 30 ans, le Seigneur s'est révélé à moi. Vous savez quoi? Pas avec un message qui va brosser dans le sens du poil, en me disant, mais Alex, t'es le meilleur. Je veux investir dans ta vie. Alors ça, il le fait plus tard. Mais le Seigneur m'a révélé dans mon cœur que j'étais un pécheur et que j'avais besoin de me repentir de ma vie de péché et de demander pardon. Et chose que j'ai fait. J'ai demandé pardon au Seigneur parce que j'avais cette sensation que le Seigneur revenait et que j'étais perdu pour l'éternité. Sensation terrible. Horrible. Un jour, j'aurai l'occasion de pouvoir vous expliquer avec Henriette, parce qu'on a notre témoignage qui est lié l'un à l'autre. On vous expliquera comment on est venu à donner notre vie au Seigneur. Mais en tout cas, le Seigneur, ce soir-là, j'ai eu une révélation. Alors que depuis mon plus jeune âge, on m'avait dit que Jésus était allé sur une croix. Vous savez, pour les monitrices, on apporte une leçon de Jésus, le Sauveur. Ces choses-là, je le savais. Mais ce soir-là, je le réalisais. J'ai dit, mais à la croix, le sacrifice à la croix, c'était pour moi. C'était pour ma vie. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a changé mon cœur. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce changement de cœur s'est opéré dans ma vie. Je ne voyais plus la vie comme je la voyais auparavant. Je me disais, mais maintenant ma vie, moi je veux la consacrer à mon Dieu, le Dieu puissant qui est venu changer mon cœur. Avec cela est venue une paix, une joie que je ne connaissais pas, un amour pour les gens. Moi qui étais quelqu'un de dur, voilà, un caractère assez dur, capable de m'extasier devant la création de Dieu. En voyant une fleur, je disais, mais il faut quand même derrière cette fleur, il faut bien qu'il y ait quelqu'un, un maître d'œuvre extraordinaire pour créer cette fleur. Alors, c'était cette période où je redécouvrais les choses du Seigneur, et le Seigneur a changé mon cœur. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut faire encore. Et ce matin, c'est important de pouvoir le dire. Je sais que la plupart d'entre nous l'avons fait. Mais peut-être le rappeler et également annoncer que si on veut s'approcher du Seigneur, il faut absolument un changement de cœur. Et c'est le Seigneur qui opère cela. Mais il va toujours nous demander, veux-tu ? Est-ce que tu veux ? Et ça sera toujours sous forme de proposition. Le Seigneur ne s'imposera jamais. On voit que cette femme, elle a été transformée. Donc son cœur a été changé. Et puis, quand son cœur a été changé, elle s'est consacrée à Dieu. Et je crois que on ne peut pas passer à côté d'une vie de consécration tout entière à notre Dieu. Être consacré à Dieu, c'est ce qu'elle a fait. Marie a discerné. La seule chose nécessaire, c'était de servir le Fils de Dieu. Et dans le service, évidemment, hein, plusieurs formes de service. Un jour, j'avais une sœur qui, en discutant avec elle, il y avait comme une peine dans son cœur. Une sœur âgée, qui était rentrée dans l'âge, et qui avait toujours servi à l'église. Et qui, un jour, me disait, tu sais, Alex, voilà, il y a un fardeau dans mon cœur parce qu'avant je servais le Seigneur, j'allais dans la rue, j'allais évangéliser les personnes que je croisais. Et là maintenant, voilà, avec mon âge avancé, je ne peux plus le faire. Alors déjà, j'ai remercié la sœur pour sa sensibilité et puis du fait qu'elle ait compris qu'il fallait servir et annoncer cet évangile merveilleux, cette bonne nouvelle de la part du Seigneur. Et ensuite, j'ai pu lui dire, mais ma sœur, on peut servir le Seigneur différemment. Il y a toujours des périodes dans nos vies. Si vous vous tenez dans la prière, dans l'intercession comme vous le faites, vous êtes en train de servir Dieu. Ça, c'est la réalité des choses. Des fois, on s'imagine que si on ne peut pas faire quelque chose. Donc, quand on parle de service, en fait, on parle de cœur. On parle de consécration de notre Seigneur. Amen. Par contre, il y a une sœur qui est là, c'est Marthe. Et Marthe, elle s'est montrée excessivement accaparée par les choses de la vie. Et des fois, ça peut nous arriver d'être accaparée par les choses de la vie. Ça vous arrive, vous aussi, on met le réveil à une certaine heure. Et quand on se pose 30 secondes, c'est déjà le temps d'aller se coucher. Le temps passe vite, excessivement vite. Je ne sais pas qui est la personne la plus âgée ce matin au milieu de nous, mais une chose est certaine, si on pouvait lui demander à cette personne comment s'est déroulée votre vie, c'est sûr qu'elle dira, mais la vie passe vite et très très vite. Et elle, donc, cette Marthe, elle était accaparée par les choses de la vie. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais la chose essentielle, c'est de vivre l'instant présent. Elle est donc là à mes pieds, et c'est ce... Alors, voilà, c'est entre parenthèses, on va un peu plus loin que le texte, ce que dit la parole. En fait, Jésus est en train de lui dire, c'est ce que tu aurais dû faire, en fait. Toi, Marthe, tu étais accaparée par des choses qui étaient louables, mais il n'y avait rien de répréhensible, si ce n'est que Jésus a décelé qu'elle était accaparée par autre chose. Des fois, il y a des choses qui nous accaparent dans nos vies. Des choses qu'on a mis en avant. Alors que le Seigneur nous montre, vous connaissez ce verset, dans Matthieu 6, 33, qui nous dit, cherchez premièrement, quoi ? Le royaume de Dieu. Et si on le fait, le Seigneur nous dit qu'il nous donnera les autres choses par-dessus. Parce que Dieu est un Dieu d'abondance. On peut le témoigner. Moi, je pourrais passer le reste du temps et même toute l'après-midi pour vous dire que le Seigneur est fidèle, que Dieu est un Dieu de bénédiction. Et quand on lui consacre notre vie, alors il s'occupe de chacun, même des petits détails de notre vie. Alléluia, le Seigneur est fidèle, c'est la réalité. Oui, Dieu est un Dieu de bénédiction. Ne pas se laisser accaparer par les choses qui peuvent voiler les bontés du Seigneur. Quand on est des fois accaparé, c'est peut-être que notre regard est ailleurs. C'est pour cela que le Seigneur a voulu, il a institué le repas, la Sainte Cène, pour que chaque fois qu'on allait se réunir, on puisse se remémorer ce qu'il a accompli à la croix du calvaire. Pourquoi ? Parce qu'on aurait tendance à oublier certaines choses. Je ne sais pas vous, mais il y a un moment donné dans ma vie où il a fallu me remettre en question. Parce qu'on a tendance à oublier les bontés de Dieu, d'où il nous a sortis. Et c'est pour ça que c'est un perpétuel recommencement lors de la Sainte Cène, du partage de la Sainte Cène. Ce n'est pas un acte banal. Ce n'est pas un acte anodin. Ce que nous faisons à la Sainte Cène, c'est une remémoration de ce que Christ a fait. Et le Seigneur nous a dit que on allait le faire jusqu'à son prochain retour, et le Seigneur arrive bientôt, mais en attendant, nous voulons vraiment nous focaliser sur les choses importantes et pas nous laisser accaparer par ces choses. Et souvent, on remarque également, alors ce matin, il n'y a pas eu de don spirituel, on est dans une église donc dite de Pentecôte, ça ne veut pas dire que, par exemple, quand il y a un culte, il n'y a pas des dons spirituels, que la présence de Dieu n'était pas là. Hein. Absolument pas. Mais moi, je remarque que souvent, dans les dons spirituels, il y a souvent, la plupart du temps, un appel de Dieu à venir, à revenir, à rectifier une situation. Parce que nous sommes accaparés par, des fois, nous-mêmes, notre propre centre d'intérêt, on regarde nos propres intérêts, alors qu'il y a quand même un principe qui est divin, je l'ai rappelé tout à l'heure, en vous disant que d'abord le Seigneur. Et si le Seigneur est au centre, pas à la première place, des fois on a des défauts de langage évangélique, Dieu prend la, Seigneur prend la première place. Si on dit qu'il y a une première place, ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui est là à la seconde et qui un jour peut prendre la première. Mais Seigneur, sois au centre de ma vie, que dans toutes mes décisions, ça soit ta volonté que je puisse rechercher, même dans les choses les plus banales de la vie et simples. Seigneur, on remet toutes choses entre tes mains. Pourquoi ? Parce que Dieu, il a les tenants et les aboutissants, il sait tout, il connaît tout, et des fois le Seigneur va nous éviter bien des problèmes, simplement en lui demandant, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ? Seigneur, mets une conviction dans mon cœur, vous êtes tous d'accord avec moi pour dire qu'encore en 2024, Dieu parle ? C'est une réalité, hein ? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon, la suite du verset nous dit que l'homme n'y prend point garde. Mais nous, ce matin, nous voulons prendre garde à ce que le Seigneur nous dit. Et tout ça, il le fait, et c'est motivé, évidemment, par son amour. Le choix de Marie révèle qu'elle était pleinement concentrée sur Jésus. Et s'il y avait quelque chose ce matin à retenir, concentrons-nous sur le Seigneur. Faisons tout pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Et pour cela, il y a ce verset de Proverbe 3, verset 6 qui nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies. » Alors si on fait cela, si on reconnaît le Seigneur dans toutes nos voies, il aplanira les sentiers. Alléluia. Ça me fait penser que à la puissance du Seigneur, il est capable d'ôter la montagne qui est là dans nos vies. Et il y a des montagnes qui peuvent se lever à un moment donné, l'épreuve, la difficulté. Et des fois, on apprend des nouvelles, c'est terrible, comme un poignard dans le cœur, une nouvelle, un diagnostic d'un docteur qui pose donc son diagnostic et qui dit, voilà, il y a telle maladie. C'est terrible à vivre. Mais il y a quelque chose à expérimenter avec le Seigneur, une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui fait qu'il y a des situations où on devrait s'inquiéter. Mais on n'est pas inquiet, mais ce n'est pas pour nos propres forces. C'est la paix que le Seigneur donne. Le Seigneur veut nous communiquer ces choses-là. Mais pour cela, il faut reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies. Choisir la voie de Dieu en toute occasion, dans chaque décision, dans chaque parole, dans chaque pensée, dans chaque réaction, dans toute ma vie, je dois me focaliser dans la volonté de notre Seigneur. Amen. Vivre selon les priorités de Dieu, ce qui va engendrer dans nos vies un désir d'excellence. Je veux être excellent dans toutes les choses que je fais pour le Seigneur. Parce que j'ai également constaté cela. Des fois, on dit, je sers le Seigneur, je fais ce que je peux. Comme si on disait au Seigneur, « Seigneur, tu te contenteras de ça. » Ça peut arriver. Hein. Si on ne le dit pas, c'est notre façon de faire qui le démontre, en fait. Mais on doit à Dieu l'excellence dans tout ce que nous faisons. Nous devons être excellents. Le peuple de Dieu doit se fixer comme objectif l'excellence. Imaginez-vous si je me présente devant vous sans rien préparer. Des fois, j'ai entendu ça. Hein. J'ai rien préparé, un prédicateur se présenter au micro. J'ai rien préparé, on va se laisser conduire. Alors, je crois dans la souveraineté de Dieu, évidemment qu'il y a des fois où le Seigneur peut conduire, comme cela, évidemment. Et ça me fait penser à une histoire de quelqu'un qui avait pris cette habitude. Seigneur, révèle-moi et dis-moi ce que tu veux dire à ton peuple. Et puis il n'avait rien préparé. Et puis il faisait ça régulièrement. Puis à un moment donné, il dit, Seigneur, voilà, révèle-moi ce que tu veux dire à ton peuple. Et là, il a entendu une voix lui dire, dis-leur que tu es un feignant. Eh oui, bon, je ne sais pas s'il l'a dit. Mais en fait, tout ça pour vous dire que on n'a rien sans rien. On doit rendre l'excellence à notre Seigneur. Évidemment, au niveau des chants, de la musique, tout ce que nous faisons. Je vais aller même plus loin. Hein. Si on fait le ménage dans ce lieu, c'est avec excellence qu'on doit le faire. Dans une certaine église dont je tairai le nom, je savais, je vous promets, en rentrant dans l'église, qui avait fait le ménage. Ça peut paraître anodin, hein. Avec le sérieux. Ce n'était pas simplement faire le ménage, juste pour que ce soit propre. Vous savez, un peu ce syndrome de lever le tapis, de mettre la poussière dessous, et puis personne ne voit rien. C'était pas comme ça. Voilà. Tout ça pour vous dire que le Seigneur attend de chacun d'entre nous de l'excellence dans tout ce que nous faisons. Et pour cela, nous devons nous focaliser sur le Seigneur et donc nous consacrer à Dieu. Vous savez comment ? Tous les jours. Se consacrer à Dieu tous les jours. D'ailleurs, il est dit que celui qui veut suivre le Seigneur se charge de sa croix, dans Luc, il est dit, tous les jours. Il doit se charger tous les jours de la croix. Le renouvellement, c'est le secret d'une vie consacrée à Dieu. Sinon, on ne prend pas le temps de se consacrer à Dieu. Alors, pour certains, ça sera le matin, très tôt. Je vais raconter une histoire que j'ai pu vivre dans le métier que je faisais. Donc avant de rentrer dans le ministère à plein temps, me lever très tôt, commencer très tôt donc le travail. Puis vous savez, quand on est un peu plus jeune, des fois on a des idées, et un quart d'heure, ça paraît tellement important. Ou j'avais donc pris un quart d'heure de plus pour dormir le matin, très tôt. Puis je m'étais aperçu qu'avec le temps, là, je commençais à me dessécher spirituellement. Puis c'est comme si le Saint-Esprit mettait dans mon cœur, il dit, ben non. Alors, il me proposait, et il ne s'imposait pas à moi de façon forcée. Et comme la présence de Dieu, c'est ce que nous avons de plus cher, et je sentais que cette présence de Dieu, ben, c'était moi qui commençais à m'éloigner. Alors ça c'est mon exemple à moi, hein. Chacun évidemment vit sa relation avec le Seigneur, voilà. Mais en tout cas, j'ai repris les choses. J'ai dit non, je ne veux pas finalement voler, j'emploie bien le mot, voler ce temps à Dieu. Je veux le donner au Seigneur, c'est peut-être pas grand-chose. Et en tout cas, la joie est venue, est revenue dans cette consécration au Seigneur. Et quand je parle de consécration, c'est pas simplement venir voilà, une fois le dimanche au culte, c'est tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je suis confronté à beaucoup de choses. Donc, se consacrer à Dieu, c'est le secret pour être consacré, c'est le renouvellement. Et quand je pense à consécration, il y a cette image qui me vient instinctivement d'Abraham. Abraham, Dieu va lui faire une promesse. Il dit, mais quitte ton pays, quitte ta patrie, voilà, tu laisses tout en arrière et tu pars. Alors, pour où ? Le Seigneur dit, pour le moment, je te dis pas, tu pars. Ben, il en faut de la foi. Hein. Il en faut de la foi. Surtout pour convaincre sa femme et toutes les personnes qui étaient autour de lui. Et puis, il est parti. Et puis le Seigneur va lui faire une promesse. Le Seigneur va lui dire, voilà, de toi naîtra une descendance. Vous lirez cette semaine, si vous avez le temps, mais on parle ici de racheter le temps. Prenez le temps de lire toutes les bénédictions que Dieu veut lui accorder. C'est extraordinaire. Hein. Il y aurait eu de quoi, peut-être, que la tête enfle un peu, les chevilles, la tête, et puis tout le corps. Le Seigneur va dire, de toi va naître une nation. Et puis, la promesse, elle tarde. Et comme la promesse, elle tarde, des fois, c'est la réaction que l'on peut avoir. Dieu nous fait des promesses. Et quand la promesse, elle tarde, on veut donner un coup de main à Dieu. C'est ce qu'il a fait. Hein. Essayer un peu de s'arranger, mais on ne s'arrange pas avec Dieu. Dieu fait une promesse, et quand il fait la promesse, il n'est pas un homme pour revenir sur ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir certainement, sauf qu'il y a le temps qui est le temps de Dieu, et c'est là où ça se complique pour nous, où nous devons nous réajuster au temps de Dieu et reconnaître que Dieu, il est Seigneur et il fait ce qu'il veut. Il est dans le ciel et il fait ce qu'il veut. Et donc, il essaye de donner un coup de main à Dieu. Puis on connaît l'histoire, on voit que ça ne marche pas. Et puis, l'enfant de la promesse vient de façon extraordinaire, à un âge avancé. Donc l'enfant est là. Moi, je pense déjà que l'enfant, il était choyé et aimé, évidemment. Il y a ce passage où le Seigneur va lui dire, maintenant tu vas aller me consacrer un sacrifice et tu vas m'offrir ton fils, ton bien-aimé, celui que tu aimes, tu vas me l'offrir sur l'autel du sacrifice. Et on voit que Abraham, il obéit. Nous, quand on le lit, parce qu'on connaît pour la plupart la suite de l'histoire, mais il faut le vivre, quand le Seigneur demande ces choses-là, de nous consacrer ce qui aurait pu être un piège pour Abraham, en fait. Le Seigneur dit, tu dois me le consacrer. Et également, ça c'est l'aparté, c'est de dire que la foi, elle sera toujours testée. Il y aura toujours un test de la foi. Dire qu'on a la foi, c'est facile. Mais quand on est dans l'épreuve, dans les moments difficiles, dire qu'on continue de croire et qu'on a confiance à notre Seigneur, c'est autre chose. Donc la foi, elle sera testée. Et dans ce test-là, il a réussi parce que, et des fois, l'enfant vient pour lui dire, mais je vois ici qu'on a le bois, tout est presque apprêté, mais le sacrifice, il est où? Ça devait remuer dans le cœur d'Abraham de se dire, mais en fait, je vais le consacrer. Je vais le sacrifier pour Dieu. Mais il est prêt à le faire. D'ailleurs, le test, il l'a réussi, il lève le bras, il est prêt à faire l'acte. Puis le Seigneur dit, arrête. Maintenant, je constate que tu es prêt à me consacrer toute ta vie. Et là, il y a cette image extraordinaire. Le timing de Dieu. Juste à côté. Un bélier qui est là, pris dans les broussailles. C'est comme si le Seigneur disait, mais non, Abraham, c'est pas toi qui vas donner ton fils. C'est moi qui vais donner mon fils un jour à la croix du calvaire. C'est ça l'image de ce passage-là. Et là, on voit la grâce de notre Seigneur. Tout ça pour vous dire que on ne peut pas se payer le luxe de tenir ferme, de tenir dans les voies de notre Seigneur sans une consécration totale et complète. Que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous, de vivre cette consécration. Donc le renouvellement, c'est le secret d'une vie consacrée. On doit entretenir le feu dans notre cœur. Entretenir un cœur bouillant. Quand on parle de bouillant, on parle d'effervescent. Nous sommes devenus des spécialistes dans nos milieux pour dire « mes frères ». Vous ne comprenez pas, souvent on dit ça, je l'ai entendu. Pasteur, vous ne comprenez pas. Tout se passe à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur. Mais moi, je crois que quand il y a un bouillonnement, quand il y a quelque chose de fort et qu'on vit cette relation avec le Seigneur, alors ça doit pouvoir se voir à l'extérieur. C'est ce qu'on a fait ce matin. On a exprimé devant notre Seigneur combien il est bon, combien il est grand. C'est ça la louange, en fait. La louange à notre Dieu, c'est dire qui est Dieu, finalement, et toutes ses vertus. Alléluia. Mais pour cela, on doit entretenir. Parce qu'une fois que le cœur a été allumé, embrasé par le Seigneur. Moi, j'ai fait une prière au Seigneur quand je me suis converti. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, j'ai tellement vu de personnes à un moment donné où le feu diminuait, dire, Seigneur, ce feu que j'ai pour toi, cette passion que j'ai pour toi, surtout qu'il ne s'éteigne jamais. Mais c'est ma responsabilité d'entretenir le feu. Ça, c'est ma responsabilité. Des fois, nous, on aurait tendance à dire, Seigneur, c'est à toi d'entretenir le feu. Le Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'il a prévu. C'est à chacun d'entre nous d'entretenir ce feu. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse. Vous connaissez ce verset, hein, ces deux versets. Apocalypse 3, versets 15 et 16. Ça commence pas mal au verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Si on prend la fin du verset et que Dieu dise, je te vomirai de ma bouche, on pourrait dire, mais quand même, c'est grave. Il y a quelque chose qui s'est passé là pour que la personne ou la situation soit vomie de la bouche de Dieu. C'est quoi? Il y a de l'adultère. Il y a quelque chose de tellement grave. Simplement, de la tiédeur. C'est ça le verset, hein, on est d'accord. Alors, ce que le Seigneur veut, c'est des cœurs bouillants. On peut avoir un cœur froid, pourquoi? Parce que le Seigneur peut le rallumer. Il peut allumer un cœur froid, mais un cœur tiède. Vous savez l'histoire d'Élie, où il y a cette parole qu'il a dans son cœur, il dit, mais en fait, aujourd'hui, choisissez. Choisissez. Si Dieu est vraiment le Dieu que vous voulez suivre, ben marchez-y. Mais si ce n'est pas votre Dieu, surtout ne restez pas dans une position un peu au milieu de tiédeur. Le cœur froid, c'est l'absence d'émotion. C'est même un détachement ou une ignorance de Dieu. Et ça peut arriver. Moi, j'ai connu des tas de personnes, sûrement que vous aussi, hein, des tas de personnes qui au départ étaient bouillants. Puis aujourd'hui, quand on les côtoie, les cœurs froids. Et même quand on leur parle de Dieu, ils ne veulent plus rien savoir des choses de Dieu. Il y a le cœur tiède. Le cœur tiède, c'est un cœur indifférent. L'indifférence, c'est terrible hein, comme sentiment. On est indifférent. Et puis, il y a le cœur bouillant. Cœur bouillant, température élevée. Activité intense. La passion, l'ardeur et l'enthousiasme. Et je crois que chacun d'entre nous, nous devons retrouver ces choses-là. De l'ardeur, du bouillonnement, de l'enthousiasme pour le Seigneur. Alléluia. Et laissez voir ce qu'il y a, ce qui se passe à l'intérieur. Laissez le voir à l'extérieur. Pas pour en mettre plein la vue, parce qu'on en a connu là aussi. Des personnes qui essayaient de... Mais on ne trompe pas. Mais un bouillonnement pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et si dans notre cœur, il y a ce bouillonnement, et notre responsabilité, c'est de pouvoir alimenter ce feu. Pour qu'il y ait du feu, qu'est-ce qu'il faut? D'abord du bois. Les choses, elles semblent tellement naturelles, normales. Ensuite, il faut également du vent, il faut la circulation du vent. Et il faut également, de temps à autre, retirer la cendre. Parce que le feu va être étouffé à un moment donné, il ne pourra pas prendre. Et là, ça nous montre, il y a évidemment des images pour chacun d'entre nous. Le bois, c'est le Seigneur, c'est sa parole, c'est ce qu'il met dans notre cœur. Nous avons cette responsabilité pour que le vent du Saint-Esprit anime notre cœur, notre vie, alléluia, et que nous soyons toujours en vitalité. Alors je vous fais une petite confidence ce matin. C'est que j'aime beaucoup le feu de cheminée. Je pourrais passer des heures à ne rien faire, simplement en restant là à regarder le feu. Par contre, j'ai horreur d'un feu qui ne prend pas, et qu'il n'y a pas une belle flamme, une belle flambée. Et c'est un peu comme cela que le Seigneur veut nous voir. un feu, alléluia, qui se voit de loin. Et vous savez quoi? Si le monde qui nous entoure voit que nous sommes une église enflammée pour lui, sans faire des choses extravagantes, hein, mais simplement enflammée pour son œuvre, alors on va rayonner. Un feu a cette particularité, quand il y a un feu, vous allez voir, hein, régulièrement, ça se voit de loin. Et ensuite, le feu va attiser la curiosité de ceux qui regardent au loin. Et une église embrasée pour l'œuvre de Christ, alors le Seigneur va faire qu'il va rajouter à son église tous ceux et celles qui seront sauvés, et il va les amener donc à la bergerie, et nous voulons être prêts pour cela. Mais que nous puissions vivre cet amour intense avec le Seigneur. J'avais prévu encore d'autres femmes à voir, mais vous savez, ça c'est le problème des prédicateurs. Hein. Il faut qu'on enclenche, on met la première, voilà, on enclenche la prédication. Et peut-être qu'évidemment on aura l'occasion une prochaine fois de partager. Juste vous rappeler ce que j'avais prévu de vous dire. Vous allez la reconnaître, une femme de 84 ans qui sert Dieu. Vous la connaissez? Anne. Luc 2, 36, 38. J'ai prévu aussi de vous parler d'une femme qui a communiqué sa foi, son espérance, et qui a sauvé sa famille. Rahab. Une femme intelligente et sage. Une femme également bon, consacrée à Dieu, on l'a vu, qui sert Dieu avec une foi communicative. Mais ça, peut-être qu'on aura le temps de le revoir une prochaine fois. Mais en tout cas, gardez dans vos cœurs que dans ce jour spécial, cette Marie nous montre qu'il y a une position où nous devons être chacun d'entre nous. Ce matin, c'est au pied du Seigneur. Pourquoi au pied du Seigneur? Parce que, en fait, on est vigilant. Quand le Seigneur va se déplacer, qu'il va faire un pas, on va le suivre. Et on va marcher. On va être fidèle à notre Seigneur. Amen. Et c'est notre responsabilité de nous consacrer à notre Dieu complètement et totalement. Alléluia. On prie le Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci Seigneur mon Dieu pour qui tu es, Seigneur, oui tu es un Dieu qui est grand, bon, merveilleux, tellement puissant, tu nous connais si parfaitement et tu as un plan pour nos vies et tu veux te manifester encore, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs. Ce matin nous voulons être attentifs, ce que tu as voulu, Seigneur mon Dieu, que je puisse partager, Seigneur, ta parole elle est précieuse, que personne ne puisse la laisser tomber à terre, mais que nous puissions repasser, Seigneur mon Dieu, ce que toi tu as voulu nous dire, ce que tu attends de chacun d'entre nous, c'est une vie consacrée, une vie remplie de zèle, un bouillonnement, une effervescence dans nos vies, Seigneur, un enthousiasme, Seigneur mon Dieu, de nous attacher à toi. Je glorifie et je bénis ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Merci, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alléluia.